Lundi 9h, jeudi 14h et dimanche 16h, un jour, un fait, avec Luca Gandros Fernandez sur Radio Prévert.
14 juillet 1789, ce n'est pas encore le matin que l'on peut déjà entendre dans les rues des rumeurs circuler. Le roi Louis XVI refuserait de disperser les quelques 20 000 soldats qui menacent d'intervenir contre la toute récente Assemblée nationale. Pris de panique, une foule se retrouve bientôt devant les Invalides, réclamant les quelques 32 000 fusils qui s'y trouvent. Le gouverneur, bien sûr, refuse, et à peine l'a-t-il fait que l'on pousse la grosse grille en or qui, bientôt, tombe. Et la garde, me diriez-vous, elle laisse faire, et on en est d'ailleurs un petit peu étonné. La foule pénètre donc dans les Invalides, se saisit des armes, mais pour les faire fonctionner, pour se défendre face aux prétendus gardes de Louis XVI, il faut de la poudre, et tout le monde le sait. La poudre est à la Bastille, cette grosse forteresse réputée imprenable, où l'on enferme les personnes dont leur nom était inscrit sur les lettres de cachet rédigées par le roi sans jugement. Les prisonniers étaient envoyés par les mousquetaires du roi, comme les fameux D'Artagnan, Porthos, mais ça c'était plutôt avant, puisque maintenant c'est une prison qui abrite de vieux infirmes, sans trop d'intérêt. Il est maintenant midi, et la foule est en marche vers cette grosse forteresse, Faubourg Saint-Antoine. Le gouverneur de Launay laisse entrer quelques hommes pour essayer de discuter. Ils veulent la poudre et le retrait des canons toujours dirigés sur Paris. En fait, toujours cette peur d'une attaque de Louis XVI. La foule est là, qui attend. Ça dure longtemps, très longtemps, et peut-être trop longtemps. Alors il y a plusieurs versions. Soit le gouverneur cède, il retire les canons, mais la foule, elle ne comprend pas ça et l'interprète comme l'annonce d'un bombardement imminent, ou bien il fait tirer directement sur la foule. Mais ça n'a pas vraiment d'importance pour la suite, puisque le peuple s'introduit avec le peu d'armes qu'il a, et bientôt, on pourra voir la tête du gouverneur sur une pique. En quelques heures, cette prison tombe, et avec elle, le symbole du pouvoir monarchique. Et le roi, que fait-il ? Ah ! Quand le duc de La Rochefoucauld, responsable de la garde-robe royale, lui annonce cet événement, le roi lui demande « Mais c'est une révolte ?» Ce à quoi il répond, et ce dialogue restera célèbre dans l'histoire, « Non, sire, c'est une révolution. »
Un jour, un fait sur Radio Prévert.
En ce milieu, et un peu plus du XVIIIe siècle, les pensées sont plutôt tournées vers les Lumières. De nombreux salons et loges maçonniques se forment afin de philosopher sur des questions tant religieuses, morales que politiques. Toutes ces pensées, vous en conviendrez bien éloignées de celles de la cour, vont cependant se diffuser par le biais des gazettes, des livres ou même des correspondances. Et quand je parle de livres, je fais allusion, entre autres, à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, vous savez, cette œuvre monumentale de 35 volumes rassemblant tous les savoirs de l'époque. Mais, outre ces savoirs, il y a habilement cachés, des critiques des institutions politiques et religieuses. Alors la question que vous vous posez sûrement est comment, avec toute la censure que l'on connaît de cette époque, ce livre a-t-il pu être publié ? Alors bien que l'Église se soit formellement opposée, vous pouvez l'imaginer, la marquise de Pompadour, l'une des grandes maîtresses de Louis XV, a sans doute facilité sa publication. Il y a aussi, et vous avez déjà dû en entendre parler, de grands philosophes qui s'imposent, les fameux philosophes des Lumières. Parmi eux, Voltaire, qui publiera, après avoir défendu brillamment pendant 3 ans un certain Calas, je n'entre pas dans les détails, le traité de la tolérance en 1763. Alors il fera aussi l'éloge des institutions britanniques dans ses lettres philosophiques. Donc ça c'est en 1734. Alors je dis institutions britanniques, puisque, comme vous le savez, les Anglais ont toujours eu un train d'avance sur nous, puisque leur révolution s'est passée plus d'un siècle, un siècle avant la nôtre, sans oublier au passage de couper la tête de Charles Ier. Mais ça, c'est une autre histoire. Il y a aussi, parmi ces philosophes, Montesquieu, qui, dans les lettres persanes, critique ouvertement la monarchie française. Ça, c'est en 1748. Et puis, il publie, toujours en 1748, De l'esprit des lois, traité dans lequel il préconise le partage des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Et puis, bien sûr, Jean-Jacques Rousseau, l'un des piliers également des philosophes des Lumières. Alors, lui, il pense que tous les hommes naissent bons et qu'il devrait y avoir comme il l'explique dans son ouvrage du Contrat social de 1762, une cité qui garantit les droits naturels de chacun et donne au peuple souverain le pouvoir. Pour résumer, tous ces philosophes critiquent leur société, défendent les libertés individuelles et économiques, tout en rejetant la monarchie absolue de droit divin. On peut tout de même noter de petites différences sur leur manière de penser. Montesquieu et Voltaire sont pour la monarchie, tandis que Jean-Jacques Rousseau préfère un ordre assurant l'égalité. Mais il n'y a pas que des pensées qui germent, il y a aussi de nombreuses découvertes scientifiques. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais je pense entre autres à la découverte par Antoine Lavoisier que l'oxygène et l'hydrogène se combinent dans l'eau, formant ainsi le fameux H2O. Il explique au passage la respiration et la composition de l'air, tout en nous donnant cette fameuse phrase « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Il y a aussi l'invention par les frères Montgolfière d'un gros ballon en toile gonflé à l'air chaud qui, et oui, pour la première fois, s'élève du sol. Alors là, c'est l'exploit, c'est incroyable. Et puis, mais je vous dis, il y en a encore beaucoup d'autres, il y a aussi les grandes expéditions de Bougainville de 1766 à 69 et celle de la Pérouse en 1785 qui, hélas, ne reviendra jamais. Tout ça pour vous dire simplement que le monde est en ébullition, que le monde est en train de changer.
Un jour, en fait, lundi 9h, jeudi 14h et dimanche 16h, avec Lucas Gandros Fernandez.
1er septembre 1715, il est aux alentours de 8h15 du matin, au beau château de Versailles, et le grand roi soleil vient de rendre l'âme. Alors quand je dis grand roi soleil, c'est un soleil plutôt diminué qui s'éteint. Après 54 ans de règne, à presque 77 ans, il les aurait eu 4 jours plus tard. Louis XIV, il faut le savoir, à la fin de sa vie, était malade, il ne quittait pas souvent son lit, et à sa mort, puisque son arrière-petit-fils, Louis XV, est trop petit pour régner, il a à peine 5 ans, une régence est alors décrétée. Et c'est le frère du défunt roi, Philippe d'Orléans, qui est nommé régent. Sa mission est toute simple, s'occuper du royaume en attendant la majorité de Louis XV. Mais Philippe d'Orléans est un régent plutôt libertin, et pour changer de la cour vieillissante et ennuyeuse du vieux Louis XIV, il décide d'instituer une cour plus festive et pleine de divertissements. Mais le pays va mal financièrement, notamment à cause des nombreuses guerres de Louis XIV. Le régent va alors faire appel à l'Écossais John Law, qui a l'idée d'émettre des billets de banque convertibles en or. Or, c'est un petit peu l'ancêtre de nos carnets de chèques actuels. Mais les billets sont fabriqués en bien trop grand nombre, si bien qu'en 1720, il n'est plus possible de réaliser le change en or. Ce système va ruiner beaucoup de personnes, mais, et l'expression « le malheur des uns fait le bonheur des autres » résume plutôt bien la situation, l'État s'enrichit et une situation économique stable reprend le dessus. En 1723, Louis XV est âgé de 13 ans, autrement dit, il vient d'atteindre sa majorité, il peut accéder au trône, et c'est un jeune homme curieux, intelligent, mais réservé et peu sûr de lui, qui va donc s'asseoir sur un trône un petit peu trop grand. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il s'appuiera sur son précepteur, le cardinal de Fleury, pour gouverner le royaume. Avec lui, le budget est plutôt bien géré, et il est tellement apprécié par le peuple que l'on va bientôt le surnommer Louis XV, le bien-aimé. Mais ne vous réjouissez pas trop, car après une réforme ratée qui avait pour but d'assainir le budget, le Parlement avait refusé de nouveaux impôts et avait commencé carrément à contester l'autorité du roi. Après la guerre de 7 ans qui oppose la France à l'Angleterre, après le traité de Paris où la France perd ses colonies en Inde et au Canada, son surnom va rapidement changer en Louis XV, le mal-aimé. Et sa mort, en 1774, mettra fin à ses dernières tentatives de réforme, dont une visait l'égalité des sujets devant une justice gratuite. D'ailleurs, pour l'anecdote, tellement qu'il était détesté par le peuple, son corps fut transporté à Saint-Denis de nuit, pour éviter les émeutes. Et Louis XV étant mort, il laisse place à son petit-fils, Louis XVI, et n'ayant pas reçu de formation politique, il décide d'annuler de nombreuses mesures prises par Louis XV. Ses premiers ministres, même si ce terme n'existe pas à l'époque, Turgot, puis Néguère, puis Calonne se succèdent, mais ils n'arrivent pas à trouver des solutions durables. Et quand ils en trouvent, bah, ça ne convient pas vraiment au roi, comme la mesure consistant à réduire les dépenses de la cour et à généraliser l'impôt qui jusque-là est payé par les plus pauvres. Ça, c'est inimaginable. Il y a aussi un coup orchestré par Necker qui rapproche le royaume encore un peu plus près de la Révolution. Voilà ce que nous en dit Henri Delpeuple et Robert Pince dans leur Histoire de la France. En 1781, dans son compte rendu au roi, Necker dévoile les désordres, les abus et les exigences des courtisans. Le lecteur y apprend que le remboursement de la dette représente la moitié des dépenses. La cour et les privilégiés absorbent 10% du montant restant. La publication de ce compte rendu a un succès prodigieux puisqu'on en vend 100 000 exemplaires. Pour la première fois, les Français savent ce que l'on fait de leur argent. Il y a aussi la campagne militaire menée par Lafayette, qui, vous le savez, avait pour but de libérer l'Amérique, qui à l'époque était une colonie anglaise. Ça a ruiné encore un peu plus le pays. Alors pourquoi il y a eu cette guerre, tout simplement, puisque les Anglais étaient nos ennemis, et les ennemis de nos ennemis sont nos amis, que voulez-vous? Il faut des réformes, Louis XVI en a maintenant conscience, et de grandes réformes. Et pour cela, et ça n'avait pas été fait depuis 1614, Louis XIII, il décide de réunir les États généraux.
Un jour, un fait sur Radio Prévert.
Alors, qu'est-ce que c'est que les États généraux? Ça consiste en fait tout bonnement à réunir la noblesse, le clergé et le tiers-État, les trois ordres principaux qui forment le royaume. Et donc tout ce beau monde va essayer de trouver eh bien, des solutions aux problèmes soumis par le roi. Le 5 mai 1789, nous entrons donc dans cette fameuse année 1789, l'un des tournants de cette révolution, 291 députés du clergé, 270 de la noblesse et 578 du tiers-État. On remarquera quand même que le tiers-État représente une part beaucoup plus importante du royaume, s'installent dans la salle des trois ordres, la salle qui a été aménagée dans l'hôtel des menus plaisirs à Versailles. Notez que tous ces députés ont été élus donc par le peuple. Sauf que, tout ne va pas se passer comme prévu, car oui, le roi pose des questions, mais peut-être pas les bonnes. Il ne parle que des finances et ne prononce pas un seul mot sur des réformes politiques ou administratives qui sont demandées dans les cahiers de doléances. Or, les cahiers de doléances, en fait, ils récapitulent tout bonnement les revendications de chaque ordre. On peut y lire la demande d'une rédaction, d'une déclaration des droits de l'homme, le vote des dépenses et des recettes du pays, ou bien même... mais ça c'est uniquement le tiers-État qui le demande, l'égalité de tous devant la loi. Tous ces cahiers ont été ensuite donnés au roi qui, vous l'imaginez, n'a même pas lu les premières lignes. Les députés du tiers-État principalement, mais aussi certains de la noblesse et du clergé, en ont plus que marre de ce gouvernement qui n'écoute pas les propositions et vont décider de se rassembler sous le nom d'Assemblée nationale, nom d'ailleurs trouvé par l'abbé Emmanuel Joseph Sieyès. Le 20 juin 1789, devant la fermeture de la salle des menus plaisirs de Versailles, où les tout nouveaux députés devaient siéger, ils décident de trouver une nouvelle salle. Ils décident de s'installer dans la salle du jeu de paume. Vous savez, ce jeu qui est l'ancêtre pratiquement de notre tennis. Et c'est dans cette salle qu'ils vont prononcer le fameux serment. Le serment du jeu de paume, dans lequel ils promettent de ne pas se quitter tant qu'il n'y aura pas de constitution pour la nation. Parmi eux, Mirabeau, Robespierre, Bailly, et j'en passe. L'Assemblée nationale, considérant qu'appelée à fixer la constitution du royaume, opérer la régénération de l'ordre public et maintenir les vrais principes de la monarchie, rien ne peut empêcher qu'elle continue ses délibérations dans quelque lieu qu'elle soit forcée de s'établir et qu'enfin, partout où ses membres sont réunis, là est l'Assemblée nationale. Arrête que tous les membres de cette Assemblée prêteront à l'instant, serment solennel de ne jamais se séparer et de se rassembler partout où les circonstances l'exigeront, jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondements solides, et que ledit serment étant prêté, tous les membres et chacun d'eux en particulier confirmeront, par leur signature, cette résolution inébranlable. On notera que ce serment est écrit par Jean-Baptiste Pierre Bavière. Ensuite, je vous en parlais en début d'émission, se passe l'épisode du 14 juillet qui intervient suite à la forte hausse du prix du pain, le renvoi le 11 juillet du très populaire ministre Necker, et puis également cette rumeur qui grandissait à Paris, comme quoi le roi Louis XVI allait envoyer ses troupes. Notez d'ailleurs au passage que dans le journal que tient Louis XVI, comme tous les autres rois, il écrit en face de la fameuse date 14 juillet 1789 le mot « rien ». Je dis bien le mot « rien ». Il fait en fait référence à ses prises lors de la chasse. Ça nous montre quand même qu'il ne prend pas conscience de ce qui se prépare. La Bastille, vous le savez, sera ensuite déconstruite pierre par pierre. On va vendre des sortes d'objets dérivés, on va même tailler des petites bastilles, puis certaines pierres serviront aussi à la construction de ponts ou d'autres monuments. Mais ça, c'est une autre histoire. Revenons à l'histoire que je vous racontais. Une grande peur va ensuite traverser la campagne suite à la prise de la Bastille. Craignant une révolte aristocratique, les paysans vont partir à l'assaut des châteaux pour y brûler toute archive seigneuriale. Ensuite s'enchaînent les dates que l'on est tous censés connaître. La nuit du 4 au 5 août, l'Assemblée vote l'abolition des privilèges. Le 26, elle adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, un projet sur lequel elle travaillait depuis 6 jours. Parmi ces 17 articles, vous connaissez sûrement « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Le 12 juillet 1790, l'Assemblée adopte enfin cette fameuse Constitution. Alors, elle n'est pas terminée, c'est la Constitution civile, qui peut d'ailleurs nous sembler un petit peu étrange. En effet, il est stipulé que les membres du clergé deviennent des fonctionnaires qui sont payés et élus par les citoyens. On voit dès lors deux groupes se former, les jureurs, ceux qui acceptent de prêter un serment civique, et puis les réfractaires, ceux qui au contraire vont refuser ce serment, parmi eux bien sûr le pape et les principaux évêques qui perdent un pouvoir considérable. Mais cette constitution a d'autres problèmes. Écoutez plutôt Henri Delpeuple et Robert Pince dans leur Histoire de la France. La constitution distingue des citoyens passifs des citoyens actifs. Les premiers ne bénéficient que de l'égalité civile. Les actifs sont ceux qui paient un impôt représentant 3 jours de travail et peuvent voter. Mais pour être élu, il faut contribuer à la hauteur de 100 journées de travail, si bien que seuls 50 000 Français ont ce droit. Et voilà ce qu'on appelle égalité.
Un jour, en fait, lundi 9h, jeudi 14h et dimanche 16h, avec Lucas Gandros Fernandez.
Le 4 octobre 1789, les Parisiens apprennent que quelques jours plus tôt, à l'Opéra Royal de Versailles, un banquet avait été offert au régiment de Flandre, alors que les Parisiens meurent de faim. Alors là, ils sont vraiment pas très contents, et ils vont décider de se réunir dans les jardins du Palais Royal, et le lendemain, c'est un tout autre palais qui est choisi, puisque c'est celui de Versailles. On peut dès lors voir pas loin de 7000 femmes allant en direction du château. On crie « À Versailles !» ou encore « Du pain !» tout en brandissant des fourches ou des piques. Après quelques heures de marche, ça y est, elles sont devant les grilles. L'assemblée est aussi envahie et Mounier, accompagné de femmes, se rend auprès du roi. Il les écoute comme il se doit et promet même un ravitaillement. Mais le second cortège n'a pas été informé de cet accord et force les grilles des écuries royales qui tombent. Lafayette va rétablir l'ordre avec sa garde nationale puis retourner se coucher comme si de rien n'était. Et le roi non plus ne fait rien, notamment sur les conseils du ministre Necker. Cependant, et c'est Fabienne Manière qui nous l'explique, le lendemain matin, un garde de la maison du roi, pris à partie par la foule, tue un garde national. C'est l'émeute. Plusieurs gardes royaux sont tués, les grilles du château sont forcées, et la foule se rue vers les appartements de la reine. Un garde du corps a juste le temps de crier « Sauvez la reine !» avant d'être sauvagement tué. Marie-Antoinette s'enfuit par une porte dérobée, retrouve ses enfants et rejoint le roi dans ses appartements, échappant de peu au massacre. Lafayette, qui vient de se réveiller, convainc le roi de se montrer au balcon avec lui, symbole que la monarchie et le peuple est réconcilié. Vous savez, Lafayette était vraiment beaucoup aimé par le peuple. Les voilà donc qui apparaissent au balcon, et avec la plus grande stupeur, ils s'aperçoivent que les femmes crient toutes « Vive le roi !» puis « Le roi à Paris !» Et oui, le peuple veut surveiller de plus près son souverain. Et après avoir ratifié, non sans l'aide de Lafayette, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à 13h, Louis XVI et toute la famille royale quittent, une bonne fois pour toutes, Versailles pour les Tuileries. « Nous ne manquerons plus de pain, nous ramenons le boulanger, la boulangère et le petit mitron », peut-on entendre dans la foule. l'assemblée, elle aussi, qui traverse Aïe pour Paris, en s'installant dans la salle du manège.
Un jour, un fait sur Radio Prévert.
14 juillet 1790, je dis bien 90, c'est une date un petit peu spéciale puisque se déroule la fête de la Fédération française. Nous sommes au Champ de Mars et on peut voir des milliers de personnes se presser. Vous l'aurez deviné, cette date n'a pas été choisie au hasard, mais ici, il est plutôt question de réconciliation entre le peuple et son roi. Car oui, le roi est là et il va prêter serment à la nation et aux députés des 83 départements. Et c'est d'ailleurs cette date, et non la prise de la Bastille, que nous fêtons depuis le 14 juillet 1780. Le 20 juin 1791, quelque chose se prépare. Quelque chose de gros. Louis XVI, qui n'a jamais admis que le pouvoir soit distribué, et après s'être fait longtemps supplier, accepte de fuir le royaume de France. Voilà le plan. Rejoindre le marquis de Bouillé et ses troupes à Metz pour pouvoir espérer un renfort autrichien, Marie-Antoinette étant autrichienne. Avec ce renfort, il serait possible de récupérer le trône. Cette date a été choisie par Axel de Fersen, qui a tout organisé. Axel de Fersen n'est d'ailleurs pas qu'un simple courtisan, non. Il semblerait qu'Axel de Fersen soit aussi l'amant de Marie-Antoinette. Bien qu'il n'ait jamais été prouvé qu'ils aient eu des relations sexuelles, ils ont échangé des lettres passionnées, évoquant leur amour. Mais ça, le roi n'en sait rien, et c'est peut-être mieux pour l'instant. Il est maintenant 22h50, et Fersen entre dans la chambre du dauphin et de sa sœur, les enfants donc du couple royal, ainsi que leur gouvernante, pour les emmener dans une voiture préparée pour l'occasion. Du côté de Louis XVI et de Marie-Antoinette, on attend que le coucher du roi se déroule. Vous savez, cette vieille tradition mise en place par Louis XIV et dans laquelle une partie de la cour assistait au coucher du roi. Mais ils prennent du retard. En effet, il manque Lafayette. Et quand il arrive, on commence enfin cette cérémonie. Une fois le roi endormi et surtout la cour partie, le couple royal se change en valet pour le roi et en gouvernante pour la reine. Le roi sort le premier, bientôt rejoint par sa femme, puis monte dans la voiture où leurs enfants les attendent. Ils sont en retard et vous le verrez, cela aura de grandes conséquences pour la suite. La voiture s'élance donc vers le faubourg Saint-Martin, où l'on monte dans une berline conçue exprès pour le voyage. Officiellement, elle transporte la baronne de Corse, ses deux filles et ses domestiques, officieusement la famille royale d'un royaume qui leur échappe des mains. 6 chevaux tirent à grande vitesse la voiture accompagnée de 3 gardes du corps, et le lendemain, vers 10h, toute l'équipée s'arrête à Vielle's maison où l'aubergiste reconnaît le roi, mais ne dit rien. Après s'être rassasié et changé les chevaux, on repart, mais le retard se fait de plus en plus grand. Les hussards qui attendaient la berline pour l'escorter se dispersent, croyant que l'évasion est annulée. Arrivant au relais de Saint-Ménéhould, le maître de poste Jean-Baptiste Drouet reconnaît le roi. Et la légende veut qu'il le reconnaisse grâce à sa tête qui était sur un louis d'or. Mais peu importe, il saute sur un cheval pour précéder le roi à Varennes, puis avertit le syndicat procureur qui fait de suite barricader un pont où le roi devait passer. Il est 23h10 et le roi est découvert, n'ayant personne pour le protéger. C'est la fin de la fuite qui résolument a échoué. Et quand le roi rentre à Paris, il rentre comme un cochon qui s'est échappé et que l'on ramène à la basse-cour. Désormais, le peuple n'a plus confiance en son souverain.
Un jour, en fait, lundi 9h, jeudi 14h et dimanche 16h, avec Lucas Gandros Fernandez.
En septembre 1791, une constitution vient s'ajouter à celle civile. Voilà ce que nous pouvons en lire dans le livre « Histoire de la France » paru chez Milan. Elle organise la séparation des pouvoirs. Le roi, chef de l'exécutif, nomme et dirige un gouvernement formé de 6 secrétaires d'État. Il a un droit de veto suspensif qui lui permet de s'opposer à une loi. Une assemblée législative de 745 députés rédige et discute des lois, vote les budgets et contrôle les dépenses. L'assemblée décide de la guerre et examine les traités de paix. Elle ne peut être dissoute. Des juges, élus, rendent la justice souverainement. Il faut donc vous imaginer à la salle du manège à Paris, ces 745 députés qui s'installent, mais pas n'importe comment. À droite, on peut voir les 264 feuillants qui considèrent que la révolution est terminée. À gauche, les 136 girondins qui se méfient du roi, dont certains même aspirent à une république. Et entre les deux, les 345 impartiaux qui restent indécis. Le 10 août 1792, le palais des Tuileries est pris par les sans-culottes, c'est-à-dire les révolutionnaires. Le roi et sa famille sont emprisonnés dans la prison du Temple, malgré l'héroïsme des gardes suisses qui ont tenté de les protéger. Cependant, un procès n'est pas encore dans toutes les têtes. En effet, le roi de la Constitution peut-il être jugé ? Mais finalement, son procès est acté. Le 11 décembre 1792, débute un procès hors norme, celui du roi. Le voilà qui arrive, il a 39 ans et, pour un grand nombre de députés, c'est la première fois qu'il le voit. Et pour tout dire, il ne fait pas vraiment fière allure. Il n'a en tout cas pas la majesté qu'on pourrait attendre d'un roi. Il rate son procès, notamment à cause de sa manière de s'exprimer. On dirait qu'il ne se défend même plus. Et quand il le fait, il se range derrière cette vieille constitution, vieille, plutôt toute récente, de 1791. Et puis, il faut le dire, ses défenseurs sont très peu nombreux. Le 20 janvier 1793, Gara, ministre de la Justice, frappe à la porte de sa cellule. Il vient lui annoncer une mauvaise nouvelle. Il vient lui annoncer la mauvaise nouvelle. Louis Capet est coupable de conspiration contre la liberté de la nation et d'attentat contre la sûreté générale. Les députés de la Convention étaient pourtant divisés quant à sa mort. À une voix de la majorité seulement, Louis aurait peut-être pu rester en vie. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de voir que le cousin même de Louis, le futur Philippe Égalité, a voté pour sa mort. Il demande, donc Louis XVI, demande un délai de 3 jours pour paraître devant Dieu, demande de dire adieu à sa famille et à ce qu'elle soit libre. Il n'aura le droit qu'à une seule faveur, celle des adieux. Le valet de Cléry raconte ses adieux déchirants. À 20h30, le roi a reçu sa famille qui se précipita dans ses bras. Pendant quelques minutes, ce fut le silence, entrecoupé de sanglots. Puis ils s'installèrent dans la salle à manger pendant 1h45, où le roi parla. À la fin, le roi leur promit de les recevoir le lendemain vers 7h, mais la douleur avait été si terrible cette fois-ci que le 21 janvier, le roi se refusa à ses ultimes adieux. 21 janvier 1793, donc, il est 5h du matin. Nous sommes dans cette prison du Temple, terrifiante. Il fait un froid glacial et Cléry, dernier valet de la monarchie, réveille Louis XVI, que l'on appelle désormais Louis Capet. De 6h à 7h, avec l'abbé de Firmont, Louis va prononcer son ultime confession. Il est 9h, et après avoir donné un billet à son valet, Louis quitte cette prison du Temple. Il se retourne plusieurs fois dans la première cour, puis dans la seconde, monte dans une voiture, c'est une faveur d'ailleurs qui lui avait été donnée au lieu de la charrette. Le convoi prend les grands boulevards, mais il s'avère long, très long. L'abbé Firmont est avec lui dans la voiture et l'aide à réciter ses psaumes le long de l'itinéraire. 12 000 hommes armés encadrent le convoi par peur de représailles. Une fois place de la Révolution, où une foule immense s'est formée, Louis descend de la voiture. Le bourreau, Samson, accompagné de son fils Henri-François et d'un certain Monsieur le Gros, l'attendent. Tout est prêt. La guillotine est là. La lame a été aiguisée. Louis ne veut pas au début qu'on le touche, puis il va devoir s'y résoudre. On lui attache les mains derrière le dos, lui coupe les cheveux. 10h20, il gravit les marches, lentement. On ne peut imaginer la peur qui doit le posséder. Et une fois au-dessus de l'échafaud, il s'écrie « Je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort et prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. » À peine a-t-il dit sa phrase, que les tambours retentissent. Louis est placé sur la planche. Samson déclenche la guillotine. La lame court vers le bas. La tête tombe. On s'empresse de la brandir devant toute la foule qui bientôt s'écrie « Vive la liberté! Vive la révolution !» À la prison du Temple, quand Marie-Antoinette et sa fille entendirent les cris, ils tombèrent en sanglots, espérant qu'eux aussi, la mort ne les attendait pas bientôt. En tout cas, tous les citoyens qui s'étaient rendus à l'exécution comprirent une chose. Avec cette tête, c'était toute la monarchie française qui tombait. après cet épisode tragique, passera sous cette fameuse guillotine uniquement Marie-Antoinette le 16 octobre 1793, tandis que sa fille Marie-Thérèse de France, nommée Madame Royale, mourra de sa belle mort le 19 octobre 1851, après de 73 ans. Quant à Louis XVII, le fils qui aurait dû monter sur le trône après son père Louis XVI, il meurt à l'âge de 10 ans, victime des mauvais traitements des révolutionnaires. Après une courte république et une terreur, l'Empire s'imposera finalement à la monarchie, et ce, jusqu'en 1815. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et vous donne rendez-vous très prochainement sur Radio Prévert pour un tout nouveau numéro d'Un jour, un fait.
Un jour, un fait sur Radio Prévert.